Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
La matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui dynamite votre réveil. Et oui, je vous rappelle le principe en deux mots, je forme des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio. Nous avons une série d'ateliers toute l'année qui se déroule à la bibliothèque Saint-Corneille, et parfois même avec des classes. Et puis après, nous enregistrons nos productions, en tout cas celles de mes participants, sous forme d'émission Notre Matinale Infernale. Moi, c'est Aurore, je participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme les Rendez-vous Culture et Séries des bibliothèques de Compiègne, ou bien le Tilt Show, qui est un micro-poker. Nous arrivons à la dernière émission de notre saison 5. Et oui, ça passe tellement vite. Mais sachez que l'année prochaine, nous remettons ça. Donc si vous avez envie de participer à nos ateliers et de découvrir l'envers du décor de la radio, c'est tout à fait possible. Il suffit de contacter Graphite sur les réseaux sociaux ou bien de me contacter directement sur Facebook ou sur Instagram. Ce sera AYGBleu pour me contacter. Vous pouvez même en parler à la bibliothèque Saint-Corneille, puisqu'ils prennent aussi des inscriptions, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous n'avez que l'embarras du choix pour nous rejoindre et venir faire partie de cette fine équipe de chroniqueurs. Aujourd'hui, j'ai avec moi Antoine. On va commencer par les hommes aujourd'hui, Fatih.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord.
Donc nous avons Antoine, Elsa.
Bonjour.
La marin baladeuse.
Bonjour.
Et Fatih la féministe.
Hello.
Voilà, c'était notre fine équipe du jour et puis ça a été notre fine équipe de toute la saison 5. Donc merci à vous d'avoir suivi ces ateliers, d'avoir participé avec grand enthousiasme à toutes ces émissions que nous avons enregistrées jusque-là. Et nous sommes partis pour la dernière de l'année. Mais attention, hein, on est chaud. On part en voyage aujourd'hui et c'est Elsa qui va commencer.
Prêt pour un nouveau départ pour le Japon ?
Oui !
Oui !
Vous avez raison de vouloir retrouver ce pays merveilleux. Aujourd'hui, on commence une série de chroniques qui sera consacrée à l'histoire du pays. Nous partons en 30 000 avant Jésus-Christ, dans ce qui deviendra des millénaires plus tard le pays du soleil levant. À cette époque lointaine, ces quatre îles principales sont reliées entre elles par des ponts terrestres. Ceux-ci reliaient également l'archipel à la Corée au sud et à la Sibérie au nord. Les premiers hommes à habiter le Japon y sont donc simplement entrés à pied. Il reste peu de traces archéologiques de cette période, mais ce qui en ressort révèle une société souvent déchirée par la guerre. Il faut attendre 10 000 avant notre ère pour trouver les marques de la première culture à se développer au Japon, celle des Yomon. Ce nom que l'époque moderne lui a attribué vient d'un style de poterie particulier, dont on a retrouvé beaucoup d'exemplaires datant de cette période. Certaines de ces œuvres ne dépareilleraient pas dans une galerie d'art moderne, prouvant déjà le côté futuriste du pays. Malheureusement, lorsque des Yayoi, un peuple de Chine migrant vers le sud-est en raison des conditions climatiques extrêmes de l'actuel désert de Gobi sont arrivés au Japon, 10 000 ans de culture Yomon ont disparu dans les archives. Les Yayoi ont alors pris possession du pays, se divisant en clans appelés Uji. Au fil du temps, ces clans ont gagné en puissance, formant les premiers états du Japon. Les Yayoi ont apporté des innovations cruciales au pays. La culture du riz est apparue en même temps qu'eux, épargnant à la population les épisodes de famine que promettaient les conditions difficiles. Une page importante de l'histoire japonaise a commencé lorsque le premier empereur est apparu. Né en -711, Yimmu était, selon la légende, le descendant de la déesse Amaterasu, dont je vous ai parlé dans une précédente chronique. Yimmu était chef de clan aux côtés de ses frères. Ils cherchaient un lieu où asseoir leur domination et ils partirent explorer l'Est, accompagnés de leur peuple. Ils sont vaincus, mais Yimmu parvient à s'en sortir et décide de continuer son aventure. Il libère un peuple soumis par Nagashuneiko, l'homme aux longues jambes, et les clans alentours, en gage de sa bonté, le reconnaissent empereur. Vers 250 avant Jésus-Christ, les Japonais abandonnent la pierre au profit d'outils en métal qui permettent de mieux travailler la terre. Les armes en fer et les armures en bronze apparaissent à la même époque, principalement importées de Chine ou de Corée, en raison de l'absence de minerais métalliques au Japon. Par comparaison, l'âge de bronze en Europe se situe entre -2700 et -800, soit des siècles plus tôt. Au 1er siècle de notre ère, les pointes de hache, les lances et les épées en fer sont devenues courantes dans tout le pays. Les conflits entre les différentes nations ont entraîné la nécessité de disposer d'un armement toujours plus important. À ce moment de l'histoire, on peut se demander comment le Japon, pays si développé de nos jours, pouvait être autant en retard par rapport à certains pays pendant l'Antiquité. Vous voulez le savoir ? Rendez-vous pour une prochaine chronique.
Très intéressant. En plus, tu nous as parlé d'une série sur l'histoire du Japon. Ça veut donc dire, Elsa, que tu seras avec nous à la saison prochaine ?
Eh oui.
Oh là là, trop bien. Eh ben, je suis ravie de l'entendre. J'espère que nos auditeurs aussi, puisque je veux bien retourner encore sur le, au pays du soleil levant. En attendant, vas-y, Fatih.
Non, j'allais dire nous aussi.
Oui.
Ah, voilà.
Je partage. J'ai hâte.
Eh ben, en attendant, on va aller faire un autre voyage dans un pays un petit peu plus proche du nôtre. Je vous ai promis, hein, aujourd'hui, on allait bouger. Attention. C'est parti. Vous allez tout de suite reconnaître où est-ce qu'on va. Il parmigiano, lo zafferano, la mozzarella e la cannella, la pasta al pesto, il pollo arrosto, il baccalà.
Si je vous dis il bel paese, vous le reconnaissez? La beauté naturelle et la richesse culturelle. Allez, enfourchons la Vespa, je vous y emmène. Le Latium, qu'est-ce donc? Une région d'Italie. Ah oui, mais laquelle? Si je vous dis Rome...
Là, ça va.
Vous y êtes. Évoquons ensemble quelques grands noms. Vous pensez à Romulus et Rémus, dont la légende constitue l'œuvre de Virgile, l'Énéide, son poème inachevé. Nous sommes dans les années 20, avant Jésus-Christ.
C'est bien de préciser.
Voilà. Mais ça n'est pas du tout ces personnes auxquelles je pensais. Donc là, ce sont trois autrices du XXe siècle qui seront à l'honneur. Un petit clin d'œil à ma collègue Fatih la féministe.
Oh, merci.
Nous sommes en août 1912 et la ville de Rome s'ouvre à Elsa Morante. Une de ses grandes œuvres, La Storia, paraît en 1974. Fresque historique et populaire qui fait revivre la Rome des années 1941-1947 dans ses horreurs de la guerre, des juifs déportés, de la misère. Rome est centrale dans le roman. Le quartier populaire de San Lorenzo, celui de Testaccio et le ghetto juif. Pour vous situer, je vous propose un survol de Rome. À l'est, derrière la gare Termini, débute le quartier de San Lorenzo. Il Cimitero Verano abrite la sépulture de Garibaldi. Il voisine désormais avec la jeunesse de Rome et les amateurs de street art. Au sud, c'est le quartier de Testaccio que nous découvrons. Voyez-vous une pyramide ? C'est le tombeau de Cestius, construit entre 18 et 12 avant Jésus-Christ, toujours. Et c'est l'un des monuments antiques les mieux préservés de Rome. Au centre, c'est le ghetto juif qui apparaît sur la rive du Tibre, exposé aux inondations récurrentes, imposant des conditions de vie d'une extrême pauvreté, de 1555 à 1870, année où les portes tombent. Mais revenons à la Storia. Les salons littéraires romains s'enflamment. La mise en évidence de certains points sensibles irrite, comme la lâcheté des notables envers la population juive, raflée et quasi exterminée à Rome entre 1943 et 1944. Sans transition, nous rencontrons, au détour d'un de ses nombreux vagabondages, Anna Maria Ortese. Bien que romaine de naissance, en 1914, c'est Naples qui l'inspire. Mais où en parler alors? Allez, ici. L'autrice de « La mer ne baigne pas Naples », parue en 1953, dénonce la situation sociale dans les bas-fonds de la ville. En voici un extrait. « J'embrassais Naples du regard, dans l'immense lumière, aussi délicate qu'un coquillage, depuis les vertes collines du Vomero et de Capodimonte. On n'entendait que le clapotis tranquille de l'eau sur les rochers. On ne voyait que les collines toujours plus vives et triomphantes, en pleine lumière. Et en bas, les maisons et les ruelles grises, les ruelles infectes, misérables, où quelques lampes brillaient encore sur les ordures. » Ce livre déclenche une vive polémique. On crie à l'anti-napolitanité. La classe intellectuelle progressiste napolitaine, dont les membres furent cités nommément, s'y trouve accusé d'indolence et d'hypocrisie. Et voilà la romancière qui clôt notre propos. Elena Giannini Bellotti, née en 1929. On retiendra son engagement pour la cause des femmes. En 1973, son roman « Du côté des petites filles » est consacré à leur conditionnement précoce. Il est traduit en 15 langues. Je vous en livre quelques lignes. Quand une petite fille vive, créative, pleine d'énergie, se mesure dans les jeux de force avec les garçons, elle éprouve toujours un léger sentiment de malaise et de faute. Elle sait obscurément qu'elle n'est pas approuvée. Elle sait qu'elle déçoit l'attente d'autrui. Elle a toujours devant les yeux le modèle de la petite fille qu'elle ne parviendra jamais à être. Personne ne se réjouit de sa combativité, de son courage, de sa loyauté, de son indépendance. On préfère qu'elle soit docile, conformiste, timide et hypocrite, quitte à le lui reprocher par la suite. Je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait et à vous approprier les thèmes chers à sa pensée. Voilà, notre balade littéraire romaine s'achève. J'aurais aimé ajouter une quatrième mousquetaire en la personne de Gorialda Sapienza, autrice de L'art de la joie. Mais elle est née à Catane, en Sicile, région d'une chronique à venir.
Super.
Donc je serai là l'année prochaine également.
Oh, formidable. Nous allons continuer de voyager à la saison prochaine. J'adore ça. Quand tu as parlé de petite fille, la petite fille qui est dans mon ventre a fait des bonds. Je crois qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec ça.
Avec le fait de dénoncer le conditionnement précoce des petites filles, je pense qu'elle sera tout à fait d'accord.
Oui, mais du coup, avec la façon dont elle devait être vue et tout ça, ça lui a pas plu. Hein. Elle commence à faire...
Non, pas ça. Hein.
C'était marrant. Eh bien, on va faire une petite pause musicale. Ce qu'on a fait pour cette pause musicale, c'est qu'on a choisi pile le milieu sur la carte entre Rome et le Japon. C'est tombé sur l'Afghanistan. On vous propose donc une petite chanson qui s'appelle, bien connue, hein, Manhattan Kaboul. On a choisi la version de Thomas Dutronc et de la chanteuse Nikki Yanofsky, qui est canadienne, qui a un très très joli timbre de voix. Vous allez vous régaler. Et puis pour le côté Manhattan, on va attendre les chroniques suivantes avec Fatih, qui va nous parler du hashtag MeToo, et puis Antoine, qui va nous parler des marathons dans les grandes villes.
Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. Parler de Manhattan, mon quotidien c'est la misère et la guerre.
Deux étrangers au bout du monde si différents, deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel cible est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village.
Deux étrangers au bout du monde si différents, deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Long adieu mon rêve américain.
Moi plus jamais.
serais pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile.
Les dieux, les religions, le corps de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon.
Deux étrangers au bout du monde, si différents, deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers.
Et nous revoilà sur Graphite dans notre matinale
infernale.
Comme promis, nous allons partir du côté un peu plus anglo-saxon et Fatih va nous parler de tout un tas de choses hyper intéressantes.
Hello tout le monde, je suis de retour donc pour vous raconter l'avant et l'après octobre 2017 et donc l'impact du fameux hashtag MeToo et la libération mondiale de la parole à propos des violences faites aux femmes. Et oui, il y a des violences, inutile de les nier. Premièrement donc, la parole s'est libérée. Avant hashtag MeToo, les violences sexuelles étaient souvent traitées comme des faits divers isolés ou des affaires privées. Désormais, les victimes ne sont plus seules. Désormais, en tant qu'agressée, je peux me dire « je ne suis pas seule et ce n'est pas de ma faute ». La honte a donc changé de camp. Hashtag MeToo a révélé que le viol n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Le mouvement a mis en lumière le continuum des violences, qui va de la blague sexiste au harcèlement de rue et malheureusement jusqu'au viol éventuel. Deuxièmement, l'émotion suscitée par le mouvement a forcé les gouvernements et les institutions à légiférer pour combler le décalage entre la loi et la réalité vécue, comme je vous l'ai exposé lors de ma précédente chronique. Troisièmement, le risque pour les entreprises est devenu financier et réputationnel. C'est la fin de l'impunité de nos patriarches. Avant, on tolérait le comportement prédateur d'un patron ou d'un artiste, s'il était brillant ou rapportait de l'argent. Et puis c'était la fameuse promotion canapé. Aujourd'hui, les entreprises lâchent ces figures beaucoup plus vite. Quatrièmement, hashtag MeToo a provoqué un changement de paradigme culturel majeur avec la révolution du consentement. Du non, c'est non. On passe au oui, c'est oui. On passe d'une logique de refus, il faut avoir dit non pour être victime, à une logique de consentement enthousiaste. Il faut avoir dit oui ou l'avoir exprimé clairement pour qu'il y ait relation. La zone grise s'éclaircit. Le mouvement a forcé la société à comprendre la notion de sidération, expliquant pourquoi tant de victimes ne se sont pas débattues. Cinquièmement, l'impact n'est pas sans controverse, car le tribunal médiatique a ses limites. Le rythme de Twitter n'est pas celui de la justice. Des hommes ont été accusés publiquement et ont vu leur carrière brisée avant même toute enquête, posant la question complexe de la présomption d'innocence à l'ère numérique. Il y a aussi la fracture générationnelle. En France, cela s'est cristallisé avec la tribune de Catherine Deneuve défendant une liberté d'importuner, comme elle l'a dit. Et donc je le mets entre guillemets, marquant une incompréhension totale entre les féministes de la vieille garde et la nouvelle génération d'hashtag MeToo. En résumé, je dirais qu'avant hashtag MeToo, la parole de la victime était mise en doute, genre « qu'est-ce qu'elle portait ?» Sous-entendu, c'est de sa faute, elle n'avait qu'à se couvrir les chevilles, ou le début naissant de sa poitrine, et puis regarde ses lèvres, trop rouges, sa mastication vulgaire du chewing-gum, et un peu plus, et vu la longueur de sa jupe, on devine sa poussie, oui, je préfère le dire in English. Bon, vous voyez le tableau, quoi. Ça, c'était avant. Après hashtag MeToo, la parole de la victime est entendue et écoutée. Par contre, vite, vite, déformation pour nos chers officiers, officiels et officières de police, car il n'y avait pas, pour qu'il n'y ait pas, pardon, de loupé dans nos commissariats. Et une injustice de plus. Avant hashtag MeToo, devinez qui quittait l'entreprise ou l'institution, la victime ou l'agresseur ?
La victime.
Évidemment. Désormais, c'est l'inverse et on soutient la victime. Avant, hashtag MeToo, séduction et harcèlement étaient souvent confondus. Bon, ils le sont encore peut-être un peu encore aujourd'hui. Mais en tout cas, après hashtag MeToo, on sait ou on apprend à distinguer nettement la drague qui est réciproque du harcèlement qui lui est imposé. Voyez la nuance. Que de chemin parcouru depuis la première vague qui a permis l'avènement de la femme citoyenne. La deuxième vague, l'avènement de la femme libre. La troisième, l'avènement de la girl power. Quant à la quatrième vague du féminisme, c'est l'avènement de la prise de parole collective. Elle a transformé la honte individuelle des victimes en colère collective et donc politique, forçant les institutions à rendre des comptes. Ceci dit, à la troisième vague qui disait « les femmes peuvent tout faire comme les autres », comme les hommes, pardon, comme les autres, mais comme les hommes, la quatrième vague a répondu « peut-être ». Mais tant qu'elles ont peur de rentrer seules le soir, cette égalité est théorique. Ainsi, je clôt la saison de mes chroniques en tant que Fatih la féministe en citant Simone de Beauvoir, j'ouvre les guillemets, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante. Votre vie durant. Fermez les guillemets. »
Ouh.
Ouh, ouh, ouh.
Restons donc vigilantes.
Voilà, voilà.
Est-ce que ça veut dire que tu vas revenir avec une autre thématique l'année prochaine ou que tu ne vas pas revenir ?
Alors, si je reviens, ça sera avec la même thématique. Il y a un petit si.
Ok, ce sera donc le suspense.
Exactement.
Super. Et bien on va terminer ce week-end pour se mettre en forme avec notre chroniqueur Antoine. Et je vous laisse.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné.
Bonjour à tous. Pour ma dernière chronique de cette année, je vais vous parler du marathon et du record historique de cette année 2026. Tout d'abord, je vais revenir aux origines du marathon et à son histoire. En 490, les Grecs remportent une bataille décisive contre les Perses à Marathon. Un messager grec, Philippides, va annoncer la victoire des Grecs à Athènes. Pour cela, il court de Marathon à Athènes, soit 40 km, et il meurt sur place.
Wow.
Coup dur.
Oh, le pauvre.
En l'honneur de Philippides, les Grecs décident d'ajouter le marathon comme discipline olympique. Les versions divergent, mais c'est celle que je vous propose. Les premiers JO modernes ont lieu à Athènes en 1896. Un linguiste français, Michel Bréal, propose une course d'un peu moins de 40 km, inspirée de la légende de Philippides. Pour atteindre la distance de 42 km, il faut attendre les JO de Londres et le caprice du roi d'Angleterre, Édouard VII, qui voulait que le marathon qui partait du château de Windsor finisse juste devant sa loge au White City Stadium.
Voyez-vous ça ? C'est vraiment le caprice d'un roi.
C'est clair.
La distance a été allongée de 195 mètres lors des JO organisés à Paris. En 1924, la distance du marathon est définitivement fixée à 42,195 km. Cette distance est restée la même jusqu'à aujourd'hui. Le marathon est devenu une course mondiale car la plupart des grandes villes organisent leur marathon. Certains de ces marathons sont devenus mythiques et attirent plusieurs milliers de coureurs, comme celui de Paris, New York, Londres, Venise, Boston ou Berlin.
Vous avez dit qu'on parlait de New York.
Par exemple, le marathon de Paris a recensé en 2025 56 950 participants. Celui de New York en accueilla 59 226.
C'est la ville de Compiègne.
qui court.
Ah ouais.
Non, un peu moins. Non, un peu plus. Parce que je crois que c'est 45 000 habitants Compiègne.
Ah oui.
Avec l'agglo en plus, ça va. Allez. Compiègne-Marny qui se met à courir, my god.
Cette pratique du marathon est en hausse. D'après le site L'Athlée Expliqué, environ 1,1 million à 1,3 million de personnes courent un marathon chaque année, donnée de 2018.
Oh.
L'avantage de ces marathons, c'est que durant les courses, on peut visiter ces belles villes. L'année 2026 a marqué un tournant dans l'histoire du marathon, car un nouveau record a été établi.
Raconte-nous ça.
Préparer un marathon est très physique et demande beaucoup d'engagement de la part des coureurs, du raison des entraînements, nutrition, et nécessite du matériel adapté, chaussures. Pourquoi parler de chaussures ? Car le record mondial du marathon homme et femme a été battu à Londres lors de la 46e édition du marathon, cette année grâce à un nouveau modèle de basket. 1h59 minutes et 30 secondes, c'est le temps du Kenyan Sebastian Sou pour courir le marathon de Londres. Il est passé sous la barre symbolique des 2h, établissant un nouveau record mondial historique. Le précédent record du monde est détenu par Kelvin Kiptoum, 2h35 secondes.
À 2h pile et 35 oui. secondes. Ah, donc là, il a battu de 1 minute, genre.
Oui.
Aïe, aïe, aïe.
En 2023, ce record a été battu de plus d'une minute. En comparaison, la durée moyenne pour courir un marathon pour les amateurs est d'environ 4h30.
No comment.
À l'occasion du marathon de Londres, on a beaucoup entendu parler de la marque Adidas qui a fourni une paire de baskets inédites à plusieurs des meilleurs coureurs. Cette paire de baskets qui coûte la petite somme de $500 pour eux.
Petite.
Pas pour nous. Se distingue par son poids, ses chaussures de running pèsent à peine 97 grammes en taille 42-43 et ont nécessité 3 ans de recherche. C'est notamment grâce à cette technologie que Sebastian Sou a pu établir le nouveau record. Et voilà, c'est la fin de cette série de chroniques sur l'athlétisme. À l'année prochaine, peut-être.
Peut-être.
Est-ce que le robot humanoïde de Chine qui a couru en 31 minutes était équipé de ces baskets-là ?
Non.
Non.
Le robot, il a fait moins.
Moins que 31 minutes ?
30 minutes, je crois, à peu près.
Enfin, il va hyper lentement. Enfin, je me souviens, j'avais vu ça.
Cette année, en fait, l'année dernière, il était plus lent.
Ah oui.
Là, il a évolué. Et puis, il est très, très rapide, en fait. Il l'a fait en 30 minutes, je crois.
C'est un robot. Ça sert à rien de faire
non.
Ça sert à rien, t'as bien raison.
T'as bien raison.
Moi, je veux les mêmes baskets.
Si j'avais même les mêmes baskets, je ne courrais pas pendant 4 heures, mais pour autant.
Après, il faut aussi s'entraîner.
Ah oui, parce que je me souviens de ta chronique sur les courses et tout ça que tu nous disais. La nutrition, il faut faire attention aux entraînements. Il faut espacer les entraînements avant la course pour ne pas être trop fatigué. Et puis, même avec ça, on peut se blesser, je me souviens de ça. Pour faire un marathon, il faut être sacrément entraîné. Ouais, ça, c'est sûr. Quand même 42 km, quoi. Enfin, même à pied, je ne les ferai pas forcément en une journée. Quand je fais une bonne rando, je fais 30, 32 km. Je suis rincée à la fin de la journée, après mes 8 heures de marche. Voilà, en tout cas, j'espère que nos auditeurs, ça les aura mis en forme d'entendre tous ces records, tous ces voyages qu'on a pu faire aujourd'hui et puis durant la saison. On a choisi déjà une petite musique de fin. Ben oui.
Sniff.
Il s'agira de Cinéma de Dynamite Skaters, parce que ben oui, on est l'émission qui dynamite votre réveil. Donc on a choisi le groupe qui va bien. Et puis ils vont nous dire elle s'en va. Ben oui, notre 5e saison s'en va déjà. De la matinale infernale. Mais bien sûr, on vous dit à l'année prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre, c'est possible. Vous prévenez soit Graphite, soit moi, soit les bibliothèques de Compiègne via les réseaux sociaux. On est toujours dispo. Et puis, merci beaucoup à mes 4 chroniqueurs fidèles de cette année. Fatih la féministe.
Merci à toi, Aurore.
La marin baladeuse.
Merci, Aurore.
Elsa.
Merci, Aurore.
C'est pas pour me dire merci.
Mais on a envie.
Et Antoine.
Merci, Aurore.
Excellentes vacances à tous.
Eh oui.
C'est quand même dans longtemps.
Bonnes vacances.
Ouais, faut attendre encore un bon mois. Ben oui, mais bon, il fait déjà beau. On peut profiter des terrasses, essayer de sortir si on n'est pas trop au bout du rouleau. Mais voilà, on profite du beau temps déjà, c'est cool. Bon week-end à tous.
Merci également. Sa vie est obscure, siège vêtu de velours.